Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, je suis avec Bruno Monnier, un conseiller en habitassin et géobiologue qui s'est installé il n'y a pas si longtemps que ça à Saillant pour faire des expertises et recommandations en matière d'air et d'environnement intérieur. Monsieur Monnier, bonjour.
Bonjour.
Géobiologue, c'est passionnant, mais ce n'est pas encore reconnu partout et par tout le monde. Est-ce qu'on vous prend aussi pour un olubrius ou quelqu'un de sérieux? Ça, c'est la première question pour poser le débat quand même.
Alors, j'ai l'habitude de me présenter plutôt sérieusement parce que pour moi, c'est un métier sérieux. C'est même un métier extrêmement riche et important pour moi. Après, effectivement, je me présente effectivement comme conseiller en habitassin et géobiologue parce que la géobiologie recouvre un domaine très vaste, très large, dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et moi, je suis issu d'un centre de formation, j'arrive de Bretagne, et cette école dont je suis issu cherche à cadrer ce métier, à le rendre plus clair avec des protocoles précis. Donc voilà, moi je cherche à développer cette activité et à me présenter et à réaliser en tout cas ce métier avec beaucoup de sérieux et beaucoup de professionnalisme.
On va faire un cycle de 5 émissions pour parler un peu de la façon dont vous travaillez et des prestations que vous pouvez proposer aux citoyens. Alors je les cite vite fait. On va faire une émission sur les champs électromagnétiques basse fréquence et une autre sur les hautes fréquences, une autre sur la qualité de l'air, une autre sur le radon et enfin une dernière sur la détection sensible et la géobiologie pure. Alors ce sont des considérations dans lesquelles vous êtes non seulement compétent et persuadé. Que pensent les pouvoirs publics de vos moyens de mesure et de vos méthodes, encore une fois? Je vous prie de m'excuser d'insister, mais de tout temps, il y a des gens qu'on n'a pas eu l'honneur de reconnaître, peut-être à tort ou à raison, je n'en sais rien encore.
Alors, c'est vrai que c'est un métier pas reconnu, officiellement, donc c'est une activité un petit peu à part. Cependant, ce sur quoi on travaille, donc les pollutions sur lesquelles on travaille et qu'on essaye de mettre en évidence dans le logement, que ce soit les champs électromagnétiques, le radon, etc., ce sont des vraies pollutions qui sont reconnus officiellement. Si je prends le radon, il a été déclaré cancérogène certain pour l'homme par l'OMS depuis 1988. Les champs électromagnétiques sont déclarés peut-être cancérogènes pour l'homme depuis 2012. Voilà, dans la qualité de l'air, on peut parler du formaldéhyde qui est cancérogène certain pour l'homme depuis 2004. Enfin, tout ça, ce sont des polluants majeurs dont l'impact sur la santé est réel et reconnu. Par contre, officiellement, les pouvoirs publics ne s'intéressent pas aux bâti privés, c'est-à-dire à sa propre maison. Il n'y a aucune norme qui considère ces polluants dans l'habitat privé. Par contre, quelques normes existent évidemment dans ce qu'on appelle les ERP, c'est-à-dire des établissements qui reçoivent du public. C'est le cas sur le radon, par exemple. Il y a une réglementation sur certains ERP et dans certains départements. Donc la législation existe, mais elle est extrêmement sélective, alors que là où moi j'ai l'habitude d'appuyer, c'est que dans notre habitation privée, dans notre logement, on y passe énormément de temps. On passe 90% de notre temps dans un lieu clos ou semi-clos et 60% de ce temps-là dans notre propre maison. Si on fait une projection sur 20 années de vie, on passe 12 ans enfermé chez soi. Faut quand même imaginer voilà, qu'on passe 12 ans enfermé dans sa maison sur 20 ans de vie. Donc quand on considère ça, on peut se dire que c'est peut-être important de se poser cette question, est-ce que 12 années passées dans ma maison ne me rendent pas malade? Enfin, est-ce que ma maison ne peut ne pas me rendre malade? Voilà, c'est un peu ça l'idée de base de mon travail.
Et donc vous avez toute une batterie d'outils, d'instruments qui vous permettent d'évaluer ce niveau d'innocuité de l'appartement de façon fiable et donc justement en scientifique, ça veut dire que les expériences sont reproductibles et on tombe sur les mêmes résultats si on reproduit les mêmes expériences.
Oui, alors tout va dépendre un petit peu des pollutions ou des perturbations dont on s'occupe évidemment. Par exemple, sur la problématique des champs électromagnétiques, évidemment, je fais appel à des appareils de mesure professionnels qui sont spécifiques, c'est-à-dire que j'ai des appareils de mesure pour les hyperfréquences, d'autres appareils pour les basses fréquences. Pour le radon, c'est également des appareils de mesure. Enfin, il y a plusieurs techniques pour le radon. On peut faire appel aussi à des films, des capteurs. Pour la qualité de l'air, ce sont aussi des capteurs que l'on dispose chez soi et puis qu'on envoie en laboratoire. C'est le laboratoire qui fait après une analyse de ce capteur et qui donne les niveaux d'exposition des différents polluants. Et sur la partie, on va dire, je pense qu'on y reviendra donc sur une autre émission, mais sur la partie un peu géobiologie pure, c'est-à-dire la détection sensible qui va permettre de mettre en évidence les perturbations d'origine tellurique, les veines d'eau, les failles, tout ce qui est perturbation qui vient du sol, comme ça. On fait appel donc à cette technique de détection sensible qui est, pour donner une image à l'origine, la technique employée par les sourciers avec leur baguette de coudrier qui est le noisetier sauvage. Et aujourd'hui, on utilise cette technique un petit peu plus développée, évidemment, plus précise. On peut détecter plus de choses que simplement de l'eau dans une veine d'eau, dans une faille, mais la technique est sensiblement la même. Et pourquoi on n'utilise pas d'appareil de mesure pour cette détection? C'est parce que simplement la plupart, il n'existe quasiment pas d'appareil suffisamment sensible pour détecter ces rayonnements subtils. Ensuite, il en existe un qui s'appelle le géomagnétomètre terrestre. Je vais essayer de pas faire les choses trop compliquées, mais qui mesure le champ magnétique terrestre naturel, qui mesure du coup s'il y a des perturbations de ce champ magnétique qui peuvent être causées par les veines d'eau, les failles géologiques par exemple. Mais cet appareil est très coûteux. La détection avec cet appareil est très lente, donc c'est très long, et c'est moins précis que la détection quand on a eu un bon apprentissage et qu'on maîtrise bien la technique.
Vous avez parlé devant votre école tout à l'heure en disant qu'elle essayait de mettre les choses un petit peu au clair et au carré. Mmh. Peut-être vous pourriez préciser aussi de quelle école s'agit-il, et est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous représentez un corpus organisé?
Alors, un corpus organisé, c'est un bien gros mot. Par contre, comme on est plusieurs, ce centre de formation sort entre 15 et 20 élèves par an, on est déjà un peu ce groupe-là de conseillers en habitation qui sortons de cette école. Cette école s'appelle Santé et Énergie de l'Habitat, située près de Vannes dans le Morbihan. Moi, je suis originaire de cette région, donc c'était intéressant pour moi parce que c'était tout proche de chez moi. Après, il en existe d'autres, centres qui travaillent à peu près sur cette technique. Et effectivement, l'objectif, c'est de, malgré qu'il y a une part... c'est un métier particulier parce qu'il y a une part très technique, très scientifique sur la mesure des champs électromagnétiques, sur la compréhension des champs électromagnétiques, sur la radioactivité, le radon. Et puis, il y a une partie très subtile, très sensible, énergétique, on va dire, par rapport aux ressentis propres du corps, etc., sur un lieu. Et donc, cette école associe ces deux mouvements. Et pour ça, c'est très riche. Ça évite d'être que dans le cerveau gauche ou que dans le cerveau droit. On travaille avec les deux unités du cerveau. Après, cette formation essaie de faire reconnaître ce métier et de le cadrer, surtout pour pouvoir travailler aussi clairement avec des constructeurs, des architectes, qu'on utilise un langage commun, qu'on soit compréhensible, parce que en géobiologie, comme je le disais tout à l'heure, c'est un domaine très vaste, et en géobiologie, on se trouve aussi des gens qui sont plus proches de la mémoire des murs, des entités, dans les maisons, etc., qui sont peut-être quelque chose à traiter, mais en tout cas qui ne font pas partie de mon activité propre. Moi, je suis conseiller en habitat sain, et on cherche à pouvoir travailler. Effectivement, moi, si une mairie m'appelle et s'inquiète et veut faire des mesures d'une antenne relais, par exemple, on peut faire appel à moi, quoi. J'ai un protocole de mesure des appareils professionnels. Et pour aussi suivre sur la question de tout à l'heure par rapport au public, on travaille pas, par contre, par rapport à des normes qui, la plupart du temps, n'existent pas et qui, quand elles existent, pour nous, par rapport à cette question d'habitat sain, ces normes ne protègent pas la population. Donc on travaille, nous, par rapport à des recommandations qui sont la plupart du temps issues d'un consensus entre toutes les associations et organismes qui militent pour protéger la population, que ce soit sur les champs électromagnétiques, la radioactivité, etc. Et qui sont basées également sur les normes les plus strictes, les plus basses qui existent dans d'autres pays. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont d'autres visions des choses pour la protection de la population, pour protection sanitaire, et qui ont des normes bien plus draconiennes que celles qui existent en France. Donc on s'appuie un petit peu sur tous ces éléments pour définir les recommandations les plus basses, en prenant en compte évidemment la sensibilité des plus sensibles d'entre nous, c'est-à-dire des fœtus, des enfants, et pas prendre en considération les personnes les plus vaillantes. Dès l'instant où on protège les plus sensibles, on protège tout le monde. Dès l'instant où on protège que les plus vaillants, on protège qu'une partie de la population.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez récemment installé dans le Diois. À Saillant.
Oui.
Comment sentez-vous l'accueil de vos propositions localement? Est-ce que on vous prend justement pour un olibrius ou quelqu'un qui va pouvoir apporter un vrai plus dans l'analyse de la qualité de son environnement?
Non, il se trouve que dans la Drôme, notamment dans le pays d'Iwa, il y a une belle écoute par rapport à cette approche. On l'a effectivement bien senti avant de décider de déménager ici, en dehors de plein d'autres choses, plein d'autres facteurs, la beauté de la région, etc. Mais Moi, j'avais besoin de savoir ça aussi, si je pouvais exercer cette activité-là pleinement. Et donc, évidemment, moi, je suis installé, on a déménagé cet été, donc on avait quelques travaux à faire dans notre propre maison. Et voilà, donc je démarre pleinement mon activité que depuis le mois de novembre à peu près. Et les rencontres sont riches et intéressantes et l'écoute est là. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire deux conférences qui se sont déroulées à Espenel. Donc j'ai eu du public attentif et intéressé qui posait des questions. Les architectes et constructeurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer sont également sensibles quand même à cette démarche, même si il est vrai qu'ils me disent souvent qu'ils ont déjà beaucoup de réglementations à respecter, hein, la RT 2012, la RT 2020, tous les intervenants sur la qualité thermique des bâtiments, etc. Donc ils ont déjà beaucoup de choses à respecter, donc ils sont très contraints dans leur activité de création, on va dire, d'habitation. Et le fait d'arriver, moi, avec des informations nouvelles, sans obligation, évidemment, ça rajoute une couche sur le millefeuille de leurs obligations. Mais à part ça, dans la démarche, dans le fait de se dire, tiens, est-ce qu'on peut construire sain et comment on peut construire sain, ça fait son chemin et ça les intéresse beaucoup. Et puis voilà, je suis aussi convié à droite, à gauche pour intervenir, soit en tant que consultant ou en tant que conférencier sur ces thèmes, notamment au Salon de l'Habitat d'Aubenas ce printemps-là. Donc là, c'est pas moi qui les ai cherchés, hein, on m'a invité. Donc voilà, oui, ça, il y a une demande, ça répond à une demande. Après, il faut être aussi clair, présent et puis professionnel. Je pense que c'est important aussi pour pouvoir répondre à toutes les questions.
Et des premiers clients déjà ?
Oui, oui, bien sûr, il y a des clients. Dans mon activité de géobiologue, dans la détection de rayonnements telluriques, qui sont évidemment perturbants, comme les failles, les veines d'eau, les sources, etc. Et ben, on m'appelle aussi, alors qu'en Bretagne, c'était pas trop ça, mais on m'appelle aussi en tant que sourcier, alors que je me présente pas comme ça, mais les gens font le lien. Et on m'appelle aussi pour faire des relevés de sources sur les terrains, parce qu'apparemment, l'eau est un petit peu rare par ici et qu'on aime bien un peu la trouver, donc voilà.
Elle coule vers les profondeurs.
Oui, la profondeur, c'est ça.
Peut-être, avant qu'on passe un petit peu dans le vif du sujet, à savoir les champs électromagnétiques de basse fréquence, pourriez-vous nous préciser si on peut retrouver vos prestations sur un petit site internet pour vous suivre ?
Oui, bien sûr. J'ai mon propre site. Alors, il est assez facile à trouver puisque il est bien référencé. Si on tape Habitat Syndrome, on tombe directement dessus. Et sinon, il s'appelle mamaisonsaine.com avec un tiret entre le ma et maisonsaine.com. Voilà.
Je vous prie de m'excuser, j'ai dit dernière petite question, mais non, je vais en rajouter une petite dernière. Est-ce que c'est cher vos prestations ? Est-ce qu'un vulgum pécus qui aurait envie de tester si sa maison ne le rend pas malade, combien pourrait-il s'attendre à se voir facturer votre prestation ?
Alors, pour parler plutôt globalement, comme c'est un métier pas reconnu, c'est un métier qui est évidemment pas cadré au niveau des prix, donc il y a un petit peu de tout. Et moi, j'ai vraiment essayé de faire les prix les plus justes, et pour que je puisse gagner ma vie, et pour que un maximum de personnes puissent faire appel à un conseiller en habitat sain, en tout cas à moi. Et donc, ça aussi, alors, suivant les études, parce que je fais les choses un peu à la carte, hein, on n'est pas obligé de tout faire, mais si on veut s'intéresser qu'aux champs électromagnétiques, on peut faire que les champs électromagnétiques. Si c'est que la qualité de l'air, qu'on a un doute, des problèmes de respiration, on peut faire une étude que de qualité de l'air, etc. Donc, ça va osciller entre 80 et 200, 300 euros. Suivant les études et le temps à passer, s'il faut un rapport d'études ou pas de rapport d'études, donc on peut faire un peu à la carte. À savoir que je fais un abattement de 10% pour les personnes qui ne sont pas imposables, parce que justement, je veux que, voilà, il n'y ait pas forcément que les personnes à l'aise qui peuvent faire appel à moi. Et après, donc, comme on reçoit beaucoup d'informations à la suite d'études, bon, bah là, en moyenne, on va dire que c'est 200 euros, c'est pas très cher pour le temps passé et puis pour les informations qu'on peut avoir, dans le sens où, après cette étude, on corrige souvent des choses qui peuvent perturber sa santé, donc normalement, on en sort en meilleure santé. Et quand, en plus, c'est dans un projet constructif, c'est-à-dire avant construction, eh bien, bon, bah, voilà, entre 200 et 300 euros pour une étude, c'est quand même pas grand-chose sur un projet à 150 000 euros en moyenne, quoi.
Vous dites qu'en fait, les gens se sentent mieux après votre passage, c'est ça, hein ?
C'est exactement ça.
Vous l'avez pu le constater, vous ne me racontez pas de n'importe quoi.
Ah non, non, c'est vrai pour deux raisons. La première, parce que l'étude va faire apporter des corrections. Bon, il y a rarement quand même des choses qui sont vraiment très, 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 très graves dans les habitations. Plutôt des petites corrections qu'on peut apporter pour éviter ce genre de pollution. Bon, les choses les plus graves, ce serait des concentrations en radon très, très élevées ou habiter sous une ligne à haute tension où là, on peut pas faire grand-chose. On en parlera tout à l'heure. Mais le reste, on peut apporter des corrections, des remédiations assez facilement. pour pas très cher. Donc on, voilà, on va forcément un petit peu mieux grâce à ça. Et puis bien souvent aussi, mon étude a tendance à relativiser des angoisses ou des inquiétudes qui sont parfois liées justement à une antenne relais. Les questions qu'on peut se poser peuvent générer des angoisses en fait. Et moi j'ai tendance à relativiser tout ça avec mes appareils de mesure justement.
Je suppose que vous connaissez le Feng Shui,
oui.
Dans lequel il y a un certain nombre de conseils un peu chinoisants,
oui.
Du style par exemple, vaut mieux avoir des poissons rouges en nombre impair, sinon c'est pas bon.
Alors c'est vrai que sur le Feng Shui, bon je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas mon sujet, mais le Feng Shui c'est quelque chose, moi j'ai été quand même initié parce que c'est vrai que c'est très proche, on a des objectifs communs, le Feng Shui et puis la géobiologie, c'est de créer un environnement d'habitation la plus saine possible, et la plus riche pour le vivant en fait, hein, c'est ça le principe. Après ce sont des cultures différentes, effectivement le Feng Shui ça vient directement de Chine, donc c'est une culture ancestrale, sauf qu'après elle était aux États-Unis, elle a été importée aux États-Unis, traduite etc, il y a eu plusieurs écoles, après importée en Angleterre et ensuite venue en France, donc il y a eu un grand chemin quand même qui a produit une déformation complète de ce que c'est le Feng Shui pour aboutir finalement à une vulgarisation d'un Feng Shui décoratif. C'est-à-dire un Feng Shui un peu Marie Claire, hein, donc voilà, tapis rouge, miroir là, faut mettre la tête au nord, etc., qui n'est pas du Feng Shui. Voilà. Le Feng Shui, c'est autrement plus complexe que ça, complètement associé à l'astrologie chinoise, et c'est une vraie étude qui passe énormément de temps, où on fait une carte énergétique de chaque habitant d'une habitation, une carte énergétique de l'habitation, et le maître Feng Shui a en charge de rendre tout ça cohérent en manipulant ce qu'ils appellent le qi, c'est-à-dire l'énergie vitale. Donc voilà, c'est la culture chinoise qui apporte ça. Qu'est-ce que c'est l'énergie vitale? Comment on la gère? Donc tout ça est très complexe. Et le nombre de poissons dans un bocal, les couleurs du poisson ou la couleur du tapis n'a rien à voir avec ça.
Très bien, on va pas s'apesantir sur le Feng Shui. Je vois que vous connaissez, mais ce n'est pas effectivement votre domaine de prédilection. Vous avez un vernis plus scientifique.
Oui, 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 c'est vrai. Il y a toute une partie scientifique dans mon activité, oui, c'est vrai.
Ben justement, alors parlons science, vous allez nous expliquer un petit peu ce que sont ces pollutions par des champs électromagnétiques à basse fréquence, d'où proviennent-ils ?
Alors, effectivement, dans les pollutions électromagnétiques, on en parle quand même pas mal depuis quelques temps, hein, liées aux antennes relais essentiellement, mais bon, il y a un amalgame qui est fait dans les champs électromagnétiques et il est bien de clarifier un petit peu tout ça pour tout le monde en fait. Hein. Et dans la problématique des champs électromagnétiques, effectivement, il y a des champs électromagnétiques qui sont dit involontaire et des champs électromagnétiques volontaires. Les champs électromagnétiques volontaires, donc les ondes électromagnétiques volontaires, ce sont effectivement les ondes radio, comme là, ce qui permet de diffuser cette émission, par exemple, ou ce qui permet de faire marcher la téléphonie mobile. Ce sont des ondes radio que l'on produit à un but bien précis. Et puis, il y a les champs électromagnétiques involontaires qui sont issus du réseau électrique domestique ou du réseau électrique national. Et effectivement, on les appelle les champs électromagnétiques basse fréquence, tout simplement puisqu'ils répondent physiquement à la fréquence alternative du transport électrique de 50 Hz. Hein, c'est-à-dire que le transport électrique a cette fréquence de 50 Hz, donc un va-et-vient, un changement de polarité 50 fois par seconde, ce qui produit un champ électromagnétique alternatif 50 fois par seconde. C'est important de le préciser parce qu'effectivement, il y a plein de champs électromagnétiques dans la nature, on en produit nous-mêmes dans le corps. La planète a un champ magnétique, a un champ électrique, etc. Mais qui sont des champs continus, de la même façon qu'un aimant ou qu'une pile. L'impact sanitaire des champs électromagnétiques artificiels est lié justement à cette alternation du 50 Hz, donc avec ce va-et-vient de 50 fois par seconde. Ils sont produits donc par tous les éléments qui conduisent de l'électricité. Donc c'est dans l'habitation, puisqu'on parle essentiellement de ça aujourd'hui. Donc soit à l'extérieur de l'habitation, ça va être les réseaux de transport nationaux, donc les transformateurs, les lignes à haute tension, les très hautes tensions, les moyennes tensions, etc., qu'elles soient enterrées ou non. Et dans l'habitation, c'est pareil, c'est les réseaux électriques, hein, donc tout ce qui est branchement, les câbles, les interrupteurs, les lampes, les convecteurs électriques, et puis tous les appareils qu'on va rajouter dans sa maison. Donc dans la maison, il y a une partie qui fait partie de la construction, hein, le réseau électrique domestique, et puis après tout ce qu'on rajoute, les appareils, les chenilles, les télés, les radios réveils, etc. Tous ces appareils vont générer des champs électromagnétiques. Il est important aussi, alors là c'est plus pour expliquer les solutions qu'on va pouvoir apporter, il est important d'expliquer que les champs électromagnétiques, c'est pas une unité, c'est deux choses. C'est un champ électrique et c'est un champ magnétique. ils sont générés tout le temps en simultané en fait, hein, donc ils sont tout le temps associés. C'est pour ça qu'on parle de champ électromagnétique, mais ce sont deux ondes différentes. Hein. Et les solutions qu'on va pouvoir apporter en cas de pollution trop importante vont dépendre du type de champ. Hein. On n'a pas les mêmes solutions pour les champs électriques que pour les champs magnétiques. Les champs électriques sont surtout générés par les câblages et les branchements. Hein. Donc une lampe va générer du champ électrique, une chaîne Wi-Fi, une télé, tout ce qui est branché, un ordinateur portable, du champ électrique, etc. Et le champ magnétique est surtout généré pour deux raisons. Soit quand il y a une distance importante entre deux câblages dans lesquels circule de la tension, ou quand il y a un bobinage. Hein, donc un bobinage, pour vous donner une image, donc c'est du fil de cuivre entortillé en bobine, quoi.
C'est souvent des moteurs électriques.
Alors effectivement, moteurs électriques ou transformateurs contiennent des bobinages, et donc ces appareils vont générer un fort champ magnétique. Donc dans la maison, tout ce qui est transformateur d'appareils, notamment les transformateurs qui alimentent les téléphones portables, hein, les chargeurs, ce sont des transformateurs, vont générer des champs magnétiques, les moteurs vont générer des champs magnétiques. Alors dans une maison, où est-ce qu'on a des moteurs ? Aspirateur, ça peut être four à micro-ondes. Bon, la chose la plus importante dans l'habitat qu'on en trouve, c'est les lits électriques, par exemple. Ça, dans mon travail, évidemment, c'est une aberration, hein, parce que ça reste branché constamment. Et puis là, on a affaire à du champ électrique et du champ magnétique du fait du moteur. Donc voilà, ça, c'est des champs électriques et des champs magnétiques. Donc on fait des mesures, évidemment, différentes pour le champ électrique et pour le champ magnétique.
Alors Monsieur Monnier, aérons un petit peu notre sujet qui est bien touffu en écoutant un morceau totalement adapté par les pionniers de l'électro allemande Kraftwerk qui s'appelle Radio Activity. We'll be right back.
Vous écoutez toujours RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr, un sujet consacré à la maison saine et plus particulièrement aux ondes électromagnétiques basse fréquence avec lesquelles M. Monnier, géobiologue installé à Saillant, nous entretient en particulier des normes qui sont en vigueur de nos jours en matière d'ondes électromagnétiques basse fréquence.
Pour revenir à la question qu'on a posée au démarrage de cette émission, par rapport aux normes et aux recommandations, là je peux en parler, hein. Donc il n'y a pas de normes dans l'habitation, hein. Donc on a le droit de construire une maison sous une ligne à très haute tension, c'est totalement légal, on peut faire une belle maison par un architecte sous une ligne à haute tension, hein, faut le savoir. Mais il y a quand même une norme qui existe en France sur les champs électriques et les champs magnétiques, mais qui est une norme industrielle en fait, et qui est une norme qui correspond à un impact sanitaire, à un danger immédiat. Et dans l'habitation, on n'est pas dans un impact sanitaire, un danger immédiat. On est sur des niveaux faibles, mais sur une longue période. Donc c'est vraiment différent. Donc ces normes, je vous les donne. Pour les champs électriques, c'est 5000 volts par mètre. Les champs électriques se mesurent en volts par mètre. Et pour les champs magnétiques, c'est 1000 milligauss. D'accord ? Pour vous donner une comparaison, en habitat sain, on va chercher à avoir des niveaux inférieurs à 10 volts par mètre pour les champs électriques. Et à 2 milligauss pour les champs magnétiques. Et bon, par exemple, pourquoi 2 milligauss ? C'est pour justifier un peu ces recommandations. Pourquoi 2 milligauss ? Parce qu'il y a des études qui ont montré, alors évidemment, il y a toujours des études faites par les industriels qui montrent qu'il n'y a aucun danger. Et puis, il y a un certain nombre d'études, beaucoup même d'études indépendantes, qui montrent qu'il y a un danger potentiel. Et notamment une grosse étude suédoise qui a été faite entre 1962 et 1985, donc sur un grand nombre d'années, une grosse étude sur 436 000 personnes qui habitaient sous une ligne à haute tension. Et cette étude a révélé qu'il y avait un risque qui était augmenté pour la leucémie de l'enfant dès l'instant où on dépassait une exposition de 2 milligauss pour le champ magnétique. Hein, parce qu'une ligne à haute tension génère surtout, enfin la problématique principale c'est surtout le champ magnétique, du fait de la distance entre les câbles, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, et pour les champs électriques, 10 volts par mètre, c'est aussi une norme, enfin c'est plutôt là un label. Donc si vous avez des ordinateurs récents ou des écrans d'ordinateurs récents, vous pouvez regarder à l'arrière, vous pouvez avoir un petit autocollant où c'est marqué TCO03 ou TCO99. Donc TCO, c'est une norme suédoise également qui est issue d'un syndicat d'ouvriers, hein, donc comme quoi même en France, les syndicats peuvent avoir du boulot sur la protection des personnes. Et cette norme TCO est devenue une sorte de label international. Donc la plupart des ordinateurs maintenant, ou des écrans d'ordinateurs en tout cas, sont équipés de ce label et donc préconisent un niveau d'exposition inférieur à 10 volts par mètre à 20 cm de l'écran. Donc voilà, c'était pour faire une comparaison entre ce qui est officiel et ce qui peut exister. Hein, donc 5000 volts par mètre à 10 volts par mètre pour nous et 1000 milligauss, alors que pour en recommandation d'habitat sain, c'est 2 milligauss. Hein, et donc c'est important voilà, de prendre ces considérations. Alors, on parlait des champs électromagnétiques basse fréquence et hyper fréquence. Il faut savoir que sur les champs électriques, par exemple, il y a des matériaux aussi qui vont conduire ces champs électriques. Donc, évidemment, le métal conduit les champs électriques. Donc, si on a une structure de maison qui existe, hein, une structure métallique, eh bien, on va amplifier, évidemment, le risque de champs électriques. Et là où c'est important de le préciser, c'est que le bois aussi accentue la propagation des champs électriques. Hein, donc, c'est souvent, c'est quelque chose qu'on ne pense pas parce que le bois est un isolant. Mais il va accentuer la propagation des champs électriques.
Quand on parle de béton armé, il y a une armature en métal donc, qui peut effectivement charpenter toute une maison. Donc on la retrouve souvent.
Oui, effectivement. Bon, après le ferraillage, je vais l'expliquer dans les recommandations, mais le ferraillage qu'est dans le béton est directement en contact avec la terre. Et donc la terre va absorber une partie de ces champs électriques. Hein, par contre, une structure complète en acier, ça peut poser problème dans une maison. Alors évidemment, ça pose aussi problème dans des élevages. Il y a beaucoup de personnes qui font mon activité, qui se spécialisent dans la gestion des élevages pour les champs électromagnétiques, parce que évidemment, les animaux en souffrent aussi. Hein. Évidemment, les hommes, on n'est pas les seuls à souffrir de ces problèmes.
Il y a beaucoup de hangars métalliques. Quoi.
Exactement. Donc je reviens sur cette notion du bois, parce que c'est important, puisqu'aujourd'hui, évidemment, il y a énormément de maisons qui se font en bois, voilà, par la pression de la crise écologique et économique, donc ce qui est une bonne chose, évidemment, mais ce risque n'est jamais considéré. Hein. Le risque d'augmenter le niveau d'exposition électromagnétique des habitants n'est jamais considéré, alors qu'il faut évidemment le considérer, puisqu'il y a des solutions, on peut gérer ce problème. Donc si vous avez des projets, ou si vous avez des connaissances qui ont des projets de construction ossature bois ou bois massif, il faut penser à essayer d'apporter des solutions pour minimiser l'exposition aux champs électriques. Dans les solutions qu'on peut apporter, on va utiliser tout le temps la mise à la terre des champs électriques. Hein. Les champs électriques peuvent être absorbés, captés et évacués par la prise de terre. Donc nous, dans l'habitat sain, on porte énormément d'attention à la qualité de cette prise de terre. Beaucoup de gens ont une connaissance très variable ou très faible de ce que c'est une prise de terre. Et on va dire que les professionnels électriciens qui sont censés gérer cette terre la font un peu par habitude, mais sans comprendre les réels enjeux sanitaires. Hein. Nous, c'est extrêmement important. Alors là, contrairement à ce que je disais au tout début, il y a une norme sur la prise de terre, elle est réglementée. La prise de terre se mesure en ohms, on mesure la résistivité du sol, et moins elle est résistante, mieux c'est, parce que plus elle va aspirer la tension électrique, et plus elle est résistante, moins bien c'est, évidemment.
Les prises actuelles avec deux embouts plus un trou, il y a une prise de terre qui est prévue, qui doit théoriquement mettre à la terre tout ce qui est branché dessus, non ? N'est-il point ?
Exactement, c'est tout à fait ça. Depuis 1995, toutes les constructions de cette époque sont obligées d'avoir des prises de terre à toutes les prises. Donc effectivement, visuellement, c'est ces prises qu'on voit avec deux trous et un petit téton, une petite borne métallique. La norme NFC 1500 qui réglemente cette terre dit que la terre doit être inférieure ou égale à 100 ohms. Elle ne considère pas du tout les champs électromagnétiques. Là, elle considère la sécurité des personnes en cas de défaut électrique. Hein, c'est-à-dire que si vous avez un défaut électrique sur votre machine à laver, il y a deux fils qui se touchent. Plutôt que ça soit vous, en touchant la machine, qui récupériez la tension et qui subissiez une électrocution, c'est la prise de terre qui va aspirer la tension et qui va l'évacuer directement dans le sol, en fait. Hein, c'est ça le fonctionnement. Sauf que dans l'habitat sain, si on a une terre plus faible encore, donc en dessous de 50 ohms ou en dessous de 20 ohms, et bien cette terre, par nature, elle va aspirer une partie des champs électriques qui sont générés par les réseaux électriques et les branchements et les appareils. Sauf que le niveau et la qualité de cette prise de terre est rarement contrôlée. Elle est contrôlée dans deux circonstances. Elle est contrôlée si vous êtes un particulier et que vous faites une construction. Vous êtes obligé de faire appel à un consuel. Le consuel, c'est l'organisme qui va vérifier le bon état de votre installation électrique et qui va vous donner l'autorisation de se brancher à EDF. Et si vous êtes particulier, peu connu du consuel, ils vont venir vérifier à chaque fois votre installation électrique et la résistance de la terre fait partie des choses qu'ils vérifient à chaque coup. Par contre, si vous faites une construction et que c'est un électricien confirmé qui fait cette installation électrique, le consuel ne va pas se déplacer pour chaque installation de cet électricien. Donc, il va vérifier une sur 10, une sur 15. Et donc, il y a plein de fois où même dans des maisons neuves que moi j'ai contrôlées, le niveau de la terre n'est pas bon.
Mais ceci dit, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une mise à la terre soit mauvaise ? C'est-à-dire qu'en fait, il plante un clou qui n'est pas assez profond, ou alors la terre qui, dans lequel le clou qui est censé mettre à la mise à la terre est isolant électriquement. Que se passe-t-il et comment vous pouvez changer ça ?
Alors, bon, c'est vrai que le niveau de la prise de terre va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre essentiellement de la nature du sol. Alors évidemment, sur des sols très rocailleux, granitiques, c'est difficile d'avoir une bonne prise de terre. Et ça va dépendre aussi de l'humidité du sol. Après, ce qui est sûr, c'est que plus on augmente le contact, la prise de terre physiquement, c'est une tresse de cuivre ou un piquet de cuivre qu'on enfonce dans le sol. Hein, c'est ça le contact. Plus on augmente le contact avec cette prise de terre, et ben plus on va améliorer le niveau de la prise de terre. Donc si on a mis que 2 mètres de fil et un piquet de 50 cm et qu'on a 300 ohms, et ben on recommence l'opération et on en met plus. Après, techniquement, les électriciens qui font la terre, il y a plusieurs techniques, il y a en boucle ou en piquet, même généralement c'est les maçons qui s'en occupent, hein, c'est-à-dire qu'avant de couler les fondations en béton, on pose une tresse dans les fouilles et on coule le béton dessus et puis on fait sortir la tresse de cuivre dans l'habitation pour le branchement électrique. Mais ce que je veux dire, c'est que comme c'est pas vérifié, eh bien le niveau moi dans toutes les mesures que j'ai faites, évidemment des fois c'est bon et puis dans beaucoup de fois c'est pas bon. Hein. Et comme dans les solutions qu'on peut apporter pour faire diminuer un niveau de champ électrique, on va s'appuyer sur le niveau de la prise de terre, eh bien c'est important de surveiller ça. Et après, évidemment, on peut l'augmenter. C'est très compliqué quand on est dans un appartement et qu'on n'a pas de jardin. Évidemment, il faut, quand on veut améliorer la qualité de la prise de terre, il faut un contact avec le sol, donc il faut un bout de jardin, ça c'est sûr.
Et donc ça, c'est un test relativement facile à faire et donc des mesures assez faciles à suivre.
Oui, les mesures sont assez faciles à suivre. Les mesures qu'on peut faire sont effectivement, moi j'ai un appareil tout simple qui est prévu. Je le mets dans une prise électrique et il me dit tout de suite le niveau de la prise de terre électrique. Et pour en revenir là-dessus aussi, c'est pareil. Des fois, on peut avoir dans des maisons, dans des habitations, des appartements, des prises avec une borne de prise de terre, mais cette prise, elle peut ne pas être branchée. Hein. Elle peut ne pas être branchée à la prise ou elle ne peut ne pas être branchée au tableau électrique. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'elle peut ne pas être branchée. Et donc, moi, je fais une vérification systématique des prises.
De toutes les prises?
Oui. Je vais finir sur la mise à la terre, puisque les outils ou les techniques de remédiation qu'on va utiliser pour contrer, on va dire, les champs électriques, c'est cette mise à la terre. Donc on va utiliser plein de techniques, ça peut être des peintures, si on a une forte exposition, bien sûr, ça peut être des peintures, des revêtements spéciaux, des objets spéciaux, ça peut être comme des rallonges blindées, des multiprises blindées, etc. Donc blindé, c'est ça, c'est-à-dire que chaque objet contient à l'intérieur un feuillard, donc une feuille d'aluminium extrêmement fine, qui est relié au fil de terre, et donc on fait un branchement à la terre, donc ça aspire, ça capte le champ électrique et ça l'évacue par la terre. Et pour les champs magnétiques, donc c'est pour ça que c'était important de préciser que les champs électromagnétiques c'est complexe, il y a des champs électriques et des champs magnétiques, les champs magnétiques ne réagissent pas du tout de la même façon. On ne peut pas les évacuer, on ne peut pas les arrêter, on ne peut s'en libérer qu'à une distance particulière en fait, alors soit en débranchant l'objet qui produit ce champ magnétique, ou en l'éloignant à une distance raisonnable. Donc pour vous donner une idée, un radio réveil, hein, comme c'est un appareil récepteur, il a un bobinage, et donc un radio réveil classique émet un champ magnétique important. Donc si vous avez ça près de votre tête de lit sur votre table de chevet, vous pouvez être exposé là à 10, 15 milligauss sans problème. Et donc là, il suffit de l'éloigner à 70, 1 mètre de distance, et vous n'êtes plus dans ce champ important. Hein. Sinon, il existe techniquement, effectivement, il y a un métal qui s'appelle le mu-métal, qui est un alliage particulier et qui rompt, enfin qui diminue franchement le champ magnétique, mais c'est un alliage extrêmement cher, extrêmement coûteux, qui n'est pas abordable pour tout le monde, évidemment.
Donc vous conseillez soit de changer de réveil, soit de l'éloigner?
Oui, évidemment, mes conseils, ça peut être des conseils aussi simples que ça, de l'éloigner si c'est possible et si on se tient à ce radio réveil. Sinon, c'est d'utiliser un réveil happy, tout simplement, qui ne va pas générer de champ électromagnétique alternatif. Hein. Souvent, les recommandations que je fais... Moi, je mets en évidence une pollution, mais après, les solutions sont souvent assez simples à mettre en place. Donc, là où ça va poser problème, par contre, c'est si le champ magnétique provient d'un objet extérieur, comme une ligne à haute tension ou qu'un transformateur, puisque là, on ne pourra que difficilement le freiner. Bon, à part ce mu-métal, mais qui est très cher, on ne peut pas le contrer. Donc, déplacer sa maison, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment éviter d'habiter proche des lignes à haute tension. Pour donner un repère facile, si vous avez une ligne à 400 000 volts, alors comment on sait combien de volts passent dans une ligne à haute tension? On s'approche d'un pylône, il y a toujours une petite plaque jaune ou rouge et c'est marqué le voltage de la tension de la ligne. Si vous avez une ligne à haute tension de 400 000 volts, il faut habiter à 400 mètres. On est sûr de ne pas être dans la bulle électromagnétique de la ligne haute tension. Si c'est une ligne à 225 000 volts, ben on se met à 200 mètres et on n'est pas dans la bulle. Vous voyez, vous comprenez un peu le schéma.
Parce que c'est quand même assez inquiétant, parce que le nombre de radios réveils en circulation est quand même assez considérable. Et il se trouve que juste à côté de mon lit, j'en possède un. Mais comment vous estimeriez la dangerosité d'un tel instrument, quand même somme toute utile, pour non seulement se réveiller et écouter la radio? C'est à ce point dangereux ou est-ce que c'est épiphénoménal?
Alors, c'est une excellente question, Louis. Effectivement, il faut partir d'un postulat que je n'ai pas exprimé, qui est la différence entre le risque et le danger. Le risque, c'est vous prenez votre voiture tous les jours pour aller au travail, vous faites 15 km, bon, bah vous avez un risque d'avoir un accident. Hein. C'est un risque potentiel. Le danger, c'est immédiat. Hein. Si vous vous promenez par grand vent au bord d'une falaise, il y a un danger immédiat de tomber de cette falaise. Plus précisément, le risque, pour nous, c'est un danger avéré. Donc on pourrait dire que le champ magnétique est un danger avéré aujourd'hui. C'est un temps d'exposition et c'est une sensibilité individuelle. Hein. Pour donner un exemple contradictoire, il y a des gens qui vont fumer toute leur vie, qui vont pas développer de cancer du poumon, d'autres, et beaucoup qui vont fumer, qui vont développer un cancer du poumon. Donc on est tous un peu différents, si on a tous une sensibilité différente. C'est ce que j'exprimais au début. Peut-être que vous, si vous êtes exposé à 10 milligauss toutes les nuits pendant 20 ans, ça vous fera peut-être pas grand-chose. Hein. Par contre, par prévention, quand on le sait, et si on attache de l'importance à notre environnement, eh ben c'est peut-être préférable de ne pas s'exposer à ce champ magnétique. C'est aussi simple que ça. C'est plus dans un état de précaution et de prévention. Moi, je ne peux pas vous dire que si vous vous exposez à ce radio-réveil pendant 15 ans, vous allez développer un cancer. C'est pas possible que je dise ça, hein, parce qu'on est tous différents, on a tous une sensibilité différente. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous ne vous exposez pas à ce champ, eh ben vous n'avez pas ce risque-là.
Donc en fait, les pollutions électromagnétiques serait susceptible de déclencher des cancers, en fait. Et qu'est-ce qu'on a repéré comme conséquences?
Alors, on va dire que les symptômes les plus courants, ce qu'on retrouve le plus abondant dans la littérature, c'est d'abord, on va dire, avant les maladies, c'est un baisse, enfin donc ça c'est reconnu, hein, biologiquement un baisse du taux de sécrétion de la mélatonine, c'est-à-dire que vous avez des problèmes de sommeil, vous dormez, soit vous dormez mal, vous vous réveillez toutes les nuits, soit vous vous réveillez fatigué, donc des problèmes d'anémie, de grande fatigue, des stress, des angoisses, de l'anxiété, donc il y a tout un tas de symptômes comme ça, suite à une exposition importante aux champs électromagnétiques. Après au niveau des maladies, donc c'est évidemment la plus discutable, parce qu'il y a plein d'études contradictoires, des études qui signalent des choses graves, d'autres qui disent que rien ne se passe, donc il faut quand même toutes les considérer. Celles qui considèrent un risque potentiel, notamment sur les champs magnétiques, électromagnétiques basse fréquence, c'est principalement sur la leucémie de l'enfant, hein, où là il y a vraiment un risque qui est reconnu. Même officiellement, les études officielles, elles y vont à demi-mot, parce que les enjeux sont énormes en fait, hein, vous ne vous rendez pas compte, mais s'il fallait soit protéger toutes les maisons qui sont sous les lignes à haute tension, enfin toutes les habitations, soit expulser et reloger toutes les personnes qui sont sous les lignes à haute tension, et puis ça veut dire que c'est revenir sur un discours qui date d'il y a 50 ans, enfin voilà, qu'ils appuient où il ne se passe rien, il n'y a aucun danger, etc. Donc les enjeux sont énormes, et même s'il y a des choses qui commencent à être reconnues, ils y vont vraiment à demi-mot. Le fait que l'OMS ait déclaré les champs électromagnétiques peut-être cancérogènes pour l'homme en 2012, c'est déjà un premier pas. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe à la force de pression quand même. Et puis des études qui sortent, ça n'arrête pas. Enfin vraiment, si on veut s'accrocher à Internet et commencer à chercher des études qui relatent des faits biologiques et physiologiques réels par rapport aux champs électromagnétiques, enfin voilà, c'est abondant. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup.
C'est toujours bien de se faire peur, mais aussi c'est aussi bien de savoir comment se protéger. Qu'est-ce que vous auriez comme suggestion à nous proposer pour mieux se protéger un peu plus de ces ondes?
Alors j'ai évoqué tout à l'heure effectivement des produits qui existent, qu'on retrouve sur des sites spécialisés. Évidemment, ça se trouve pas chez Casto, quoique les grandes surfaces du bricolage commencent un petit peu à s'y mettre. Donc on peut trouver des revêtements anti-ondes maintenant chez Castorama, faut le savoir. Mais souvent on trouve les solutions comme ça, donc ce dont je parlais, les objets de blindage, on va dire, on les trouve essentiellement sur des sites spécialisés, hein, qui sont spécialisés dans ce domaine. Mais voilà, je voulais évoquer un autre objet qui est une bonne solution et contre les champs électriques et contre les champs magnétiques, et notamment quand on est dans une maison qui est déjà existante, parce que c'est vrai que changer des câblages ou faire du blindage dans une maison existante, c'est pas évident.
Surtout quand on est locataire.
Surtout quand on est locataire. Et donc cette solution s'appelle un nid AC. Hein, tout le monde appelle ça un biorupteur. Biorupteur, ça existe, mais c'est une marque. Et donc le vrai terme, ça s'appelle un IAC, c'est-à-dire un interrupteur automatique de champ. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est donc un petit objet que l'on place, enfin qu'on le fait placer, l'idéal, par un électricien confirmé, que l'on fait placer dans le compteur électrique et que l'on va brancher sur une ligne qui alimente, par exemple, une chambre. Et cet IAC, lui, va reconnaître que vous vous appelez de l'électricité dans cette chambre ou que vous n'en appelez pas. Donc ça marche comme ça. Vous êtes dans votre chambre, vous allumez votre lampe de chevet pour pouvoir lire un livre, par exemple. Donc l'IAC ne coupe pas, enfin laisse l'alimentation circuler dans la ligne pour que vous puissiez allumer votre lampe. Quand vous éteignez votre lampe, l'IAC se rend compte que vous ne demandez plus d'électricité et coupe la tension au tableau électrique, ce qui veut dire que vous n'avez plus aucune circulation de tension dans toute la ligne qui alimente cette chambre. Donc ni champ électrique, ni champ magnétique. C'est très malin. Ça coûte, suivant les modèles, entre 90 et 300 euros. Certains, les plus gros, sont réglables. On peut y brancher plusieurs lignes en même temps. Et ça marche, c'est vraiment très efficace. Par contre, il faut le faire installer quand même par un électricien, parce qu'il faut toucher au tableau électrique. Voilà. Et c'est une bonne solution pour se prémunir dans un bâti existant de champs électriques et champs magnétiques.
Mais monsieur Mounier, hein, on aurait pu en parler pendant quelques heures supplémentaires, mais apparemment, on nous demande de sortir du studio, donc on va s'arrêter. On se donne rendez-vous assez bientôt pour la deuxième émission sur les champs électromagnétiques haute fréquence.
Pas de problème.
Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.